Voilà, merci Kaki Akiewa. Comme annoncé, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Eli Ngoma Binda. Comme Kaki vous avait dit tout à l'heure, il est philosophe, politologue et enseignant à l'université de Kinshasa. Professeur, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean-Marc.
Alors, bienvenue chez nous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de parcourir le 246 pages de cette nouvelle publication, L'essence de l'authenticité. Et vous ajoutez une phrase, une éthique du désir d'être. Alors, je me pose la question, comment être? Quelle est cette éthique-là que l'on doit observer? Qui doit l'observer pour mieux être?
Bien, l'authenticité, c'est une réflexion, c'est une idée, en fait, qui fait valoir la nécessité pour l'homme d'être ce qu'il doit être. Mmh. Pour cela, lorsque cet être-là est nié, en l'occurrence par la colonisation pour nous, par l'endoctrinement, par le changement des mentalités en les tournant vers l'Occident, mmh. Eh bien, cet être-là est menacé dans son essence. Mmh. Il faut pour cela inventer non seulement un désir, mais également toute une éthique, c'est-à-dire un ensemble de principes qui puissent permettre à l'homme de retrouver ce qu'il est et ce qu'il doit être comme être humain, mmh. comme humanité.
Cet ouvrage, c'est un projet qui date des 43 ans, professeur Ngoma Binda.
Oui, effectivement, j'ai commencé à écrire cet ouvrage à partir d'un concours qu'on avait fait déjà quand j'étais étudiant. L'un des chapitres, en fait, date de là. J'étais étudiant en première licence en philosophie et j'ai pu obtenir un prix, je crois le troisième prix. C'était un concours lancé par le journal Elima à l'époque et c'était sur l'authenticité. J'aimais beaucoup réfléchir sur ça et l'idée pour les autres chapitres m'est venue à partir du moment où j'ai été interpellé par quelqu'un. J'étais aux États-Unis, j'ai travaillé comme assistant de recherche du professeur Modimbe qui nous a envoyé pendant 2 mois aux États-Unis. Et là, nous avons été interpellés par quelqu'un qui nous entendait parler français en plein Los Angeles. Et lui nous dira, messieurs, vous êtes des Français? Nous disons, non, nous sommes Zaïrois. Zaïrois, c'est qui? C'est quoi? C'est, nous disons, un pays au cœur de l'Afrique. Et il dira, ah, là où Ali Foreman, vous voyez, hein, 75,
les combats du siècle.
Voilà. Alors, on s'est retrouvé, et puis il dit, mais je pensais que vous aviez une langue à vous. Hein, pourquoi vous parlez français? Disons, ben, mais parce que cela nous a été imposé par les Belges qui nous ont colonisés. Mais est-ce, vous n'avez pas encore été décolonisés? Il semble que depuis 10 ans, et même depuis quelques temps, il y a une politique d'authenticité qui a été comme, et il parlait français, c'était un ancien militaire américain, mais qui avait contribué à la libération de la France à l'époque, vers 45. Voyez. Donc, cela est resté accroché à ma mémoire. Vous n'avez pas de langue à vous, vous n'avez pas de culture à vous. Mmh. Et là, c'était en septembre 77. Et alors, je me suis dit, bon, il faut écrire. Et j'ai écrit un certain nombre de chapitres, toujours sur le même thème. Et finalement, j'ai envoyé en Europe à l'Armatan qui vient de publier ça.
À la page 181, professeur Ngoma Binda, au chapitre 8 de cet ouvrage, les chapitres intitulés « Pour l'authenticité », vous recourez à 2 citations, l'une de Léopold Sédar Senghor et l'autre de Ngandou Kachama. Pour Senghor, vous dites « L'indépendance de l'esprit est le préalable et nécessaire de toutes les indépendances ». Par rapport à Ngandou Kachama, vous citez une de ses phrases célèbres « La colonisation est tombeau de l'authenticité ».
Oui, la colonisation, c'est celle-là qui précisément a dévoré notre être. Mmh. C'est que nous avons été nos cultures, nos arts et nos arts chorégraphiques, c'est-à-dire les danses, etc. Nos chansons, vous savez, même les noms ont été supprimés. Il fallait, pour aller au ciel, être baptisé d'un nom tout à fait étranger, en l'occurrence juif ou français, etc. Tous ces prénoms-là. Et or, cela, justement, participe de l'aliénation, de l'assimilation à une autre culture, à ce que eux-mêmes appelaient la civilisation. Eh bien, cette manière-là de voir les choses suppose que nous n'avons aucune histoire, nous n'avons aucun art, et nous n'avons rien du tout, rien inventé. Pourtant, et au même moment, les colonisateurs étaient en train de piller nos œuvres d'art. C'est qu'ils appelaient dans la religion des fétiches, mais eux, en même temps, ils les prenaient comme des œuvres d'art et ils emportaient chez eux. Et ça avait une valeur jusqu'à présent, ça a une très grande valeur artistique et finalement même commerciale. Donc voilà, c'est cette nécessité d'affirmer de nouveau notre propre être qui est un être créateur. Créateur notamment de la culture, des valeurs culturelles, des valeurs morales, des valeurs matérielles. Et cela a été fortement nié par la colonisation. Il y a même un auteur anglo-saxon qui a dit qu'il s'agissait là, de la part des colonisateurs, d'un génocide culturel que la colonisation infligeait à l'Afrique. Et donc il fallait réagir. Et Mobutu a réagi à ça, et comme d'autres d'ailleurs, sous d'autres dénominations... Le recours à l'authenticité est arrivé avec ça. Ça avait déjà commencé vers 1969, mais affirmé de manière nette et claire essentiellement en 1971. Mobutu a fait un discours à Dakar, pays de la négritude, et là... Il fait sortir cette idée-là de manière officielle, l'authenticité. L'homme congolais zaïrois à l'époque, parce qu'on venait déjà de changer de nom, l'homme zaïrois doit être authentique, tel qu'il voudrait qu'il soit, non pas tel que les autres voudraient que ces Congolais-là, ces zaïrois-là soient. Donc, c'est une sorte d'indépendance ou de libération spirituelle, intellectuelle, culturelle, qu'il fallait absolument affirmer, qu'il faut affirmer pour véritablement être un être créateur, un être tendu vers les autres, vers le développement.
Alors quel lien peut-on faire entre l'authenticité et la négritude ?
Senghor, qui était venu ici en 73, je crois, disait que la négritude et l'authenticité sont une même et seule idéologie. Et également Mobutu disait que c'est la même idéologie, mais la différence, c'est que la négritude met l'accent sur la qualité de nègre, la qualité du noir comme tel, tandis que l'authenticité met l'accent sur l'homme. Et donc sur l'homme congolais, zaïrois, oui, l'homme africain, mais également l'homme en général, l'homme du monde entier. L'authenticité donc concerne l'homme tel qu'il est de toutes les cultures.
Je recours encore à votre ouvrage « L'essence de l'authenticité », professeur Ngoma Binda, à la page 143 au chapitre 6, portant sur authenticité et négritude, vous recourez à une citation d'Embouzé. « L'authenticité ne s'avise donc pas en tout premier lieu à faire les procès de la société occidentale, comme les filles, la négritude, surtout à ses débuts, en régnant les piliers de cette société, en l'occurrence la raison, la technique et le christianisme. Elle instaure la confiance à nos capacités, notre intelligence et aux œuvres de notre esprit. »
Oui, effectivement, l'authenticité, comme le dit Mobutu d'ailleurs, ce n'est pas un repli sur soi, et ce n'est pas non plus une critique, un rejet, notamment de la civilisation moderne. Mais c'est un recours, c'est-à-dire une démarche consistant à aller rechercher et récupérer les valeurs que nous considérons, que nous pouvons encore considérer aujourd'hui comme valables, capitales, importantes, pour nous permettre de nous construire, de construire notre avenir, de construire notre société. Donc là, Mbouzé a tout à fait raison. La négritude, comme je le disais tout à l'heure, elle a défini un tout petit peu l'essence de l'homme noir d'une manière racialiste, pour ainsi dire. C'est-à-dire que l'homme noir est essentiellement fait d'émotions, non pas des raisons, non pas de raisons analytiques, mais des raisons globalisantes. Et donc, cette raison-là, ce type de raison ne peut pas nous permettre d'évoluer. Mais là, il s'est trompé parce que, et chez les Occidentaux, et chez les Noirs, et chez tous les peuples du monde, il y a les deux, et l'émotion et la raison. Et d'une manière quantitativement difficile à définir d'un individu à un autre. On trouvera que chez cet individu dans la même culture, par exemple blanche, ben cet individu a plus de rationalité, c'est-à-dire exerce sa pensée d'une manière beaucoup plus méthodique que un autre blanc en face de lui. Et la même chose pour les noirs, les nègres, comme on le disait, pour les Africains. La part de la raison peut être et nécessairement différente d'un individu à un autre suivant la culture de l'intelligence, la culture de cette raison. Parce que quand vous avez de l'intelligence, vous la cultivez pas, c'est comme un don, vous ne cultivez pas, ben l'intelligence se meurt, se perd, diminue, se meurt. Et l'art, c'est à la fois de la raison, mais aussi une sorte d'habileté. Lorsque vous n'exercez pas, ça dépérit. C'est la même chose pour l'intelligence. Donc là, c'était une manière pour Senghor de définir qui était erroné, de définir les différences entre le nègre et le blanc, l'Africain et l'Européen. Il faut dire, l'authenticité vient dire qu'il s'agit simplement de la recherche des valeurs qui se trouvent dans notre société et les valeurs qui peuvent nous permettre vraiment de nous construire au présent et au futur. Il faut les récupérer parce qu'elles ont été niées, détruites par le colonisateur.
Mais voilà. Comment vous expliquez aujourd'hui, professeur Ngoma Binda, cette attitude que développent certains Africains, des Congolais aussi parfois? On a l'impression que si quelqu'un parle mal français, la société est plus sévère envers lui. Mais si c'est un expatrié qui le fait, on a tendance à admirer cela. Mais aussi, il y a de ces Africains, de ces Congolais aussi, qui, entre guillemets, qui se comportent plus blancs, plus européens que l'Européen.
Ben, cela date de la colonisation essentiellement. Vous savez, quand la colonisation arrive, je l'ai dit un peu en passant, c'est que on vous apprend ce qu'ils appellent les manières civilisées. Comment manger à table, comment pouvoir marcher, même la démarche comme telle, même la manière de danser, la manière de rire. Vous savez, il y a eu ici, avec cette politique de l'assimilation, il y a eu des évolués. On les appelle des évolués, c'est-à-dire des intellectuels, des jeunes gens qui avaient étudié, qui y étaient amenés à un certain stade, niveau primaire, secondaire, et ceux-là étaient des évolués, et parmi eux, il y avait même des immatriculés, c'est-à-dire qui avaient des cartes de reconnaissance que véritablement, il fait du progrès de sortir de la sauvagerie africaine vers la civilisation, c'est-à-dire en fait la civilisation occidentale. Et cela a tellement pénétré dans notre esprit, dans nos mentalités, que finalement, nous avons adopté effectivement ces travers-là. Quelqu'un qui parle mal français, ben il est regardé comme étant un ignorant, etc. Et quelqu'un qui ne rit pas comme Belge, un Français, ben celui-là n'a pas de manière. Donc, il y a toujours cette tendance à singer l'autre, le vainqueur, celui qu'on croit être civilisé, dominateur. Et jusqu'à présent, on continue,
et parfois,
évidemment.
On a même des complexes pour parler en langue nationale, en dialecte.
Ah oui, et c'est cela que, justement, Mobutu souhaitait cassé. On a développé des complexes vis-à-vis de sa propre langue parce que l'homme, le colonisateur justement, a jugé que nos langues n'étaient pas dignes. Nos langues, on disait même que nos langues étaient pauvres, ne peuvent pas exprimer véritablement les sentiments et surtout pas les sciences.
Mais alors près que, de 60 ans après, on doit continuer à vivre dans cette sorte de prison.
Oui, et la lutte doit continuer. Vous savez, l'authenticité, du moins le projet de Mobutu, qu'il a mis sur pied à partir des années 1971, a imprimé un rythme intellectuel, artistique, musical, tellement grand que finalement, nous commencions, nous autres ici au Congo, à devenir de véritables personnes autonomes, de véritables créateurs, presque dans tous les domaines, y compris en philosophie. Quand vous voyez dans la philosophie aux facultés catholiques de Kinshasa, actuellement Université catholique du Congo, les premières publications, les premières recherches étaient fondamentalement axées sur la culture, la philosophie africaine, interprétant les proverbes, les légendes, les mythes, etc. de la culture africaine. Mais malheureusement, l'Occident n'a pas voulu véritablement que l'authenticité prenne corps. Vous savez, beaucoup ne savaient pas, ils ne savent pas. Au Madagascar, ils avaient commencé ce qu'ils avaient appelé la malgachisation. Et ils étaient mis en garde par la France, détenteurs et propriétaires de la langue que les Malgaches voulaient délaisser. Ici aussi, on a été mis en garde, non seulement financièrement, mais même physiquement, parce que la protection de la langue française est une chose capitale pour les Français.
Okay.
Et donc, à un certain moment, on a dû capituler, pour ainsi dire, et nous aussi, et avec, en plus, la culture occidentale qui s'impose, ici, ben, nous ne faisons que suivre. Mmh. Donc, il nous faut, au total, je crois, si on veut s'en sortir, il faut constituer un capital économique, financier important. Donc, il faut une forte économie qui puisse soutenir nos actions de culture si nous voulons vraiment constituer...
Comme la Chine.
Ah oui, comme la Chine l'a fait, comme les autres peuples le font. Mmh. La culture doit être portée par une économie forte. Dès que vous avez une économie forte, personne ne viendra faire du chantage si vous voulez délaisser le français ou l'anglais, etc. Valoriser plutôt le lingala, le kikongo, le swahili ou le tshiluba, etc. Donc, nous avons l'obligation de pouvoir créer des sociétés puissantes sur le plan économique et à partir de là, nous pouvons affirmer véritablement notre authenticité, notre finalement capacité d'être des êtres créateurs.
Voilà, voilà. Professeur Ngomba Mpinda, auteur de plusieurs ouvrages, une trentaine au total. L'ouvrage que nous abordons dans ces magazines Métissage portait sur l'essence de l'authenticité, une éthique du désir d'être, paru chez L'Armatin, un ouvrage de 246 pages. Vous en avez d'autres encore. Comment faire pour avoir toutes ces publications d'Ngomba Mpinda, professeur?
Bon, le malheur, c'est que plusieurs de ces publications sont faites soit à Louvain, soit à Paris, donc en Europe. J'en ai publié un en anglais, mais également à Paris. Et tous ces ouvrages peuvent être trouvés dans les librairies en Europe pour ceux qui voyagent, mais ici également quelques-uns sont là. Par exemple, un livre que je recommanderais de manière forte à ceux qui s'intéresseraient à celui-là. Donc celui-là même précède parce que il a été écrit en 2013. S'intitule La pensée politique africaine contemporaine. C'est un ouvrage assez important que j'ai largement présenté également. Et donc, dans les librairies d'ici, on trouvera quelques ouvrages, mais également auprès de nous autres à l'université à Kinshasa.
On peut aussi vous appeler directement pour acheter tel ou tel autre ouvrage.
Oui, au 09 98 11 82 40. 09 98 11 82 40. Là, on peut m'atteindre à tout moment.
Professeur Ngomba Mpinda, merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie sincèrement.